Toutes et tous à l'ENS Paris-Saclay. Il faut utiliser un micro, vous pouvez. Ça fonctionne ? Bienvenue à l'ENS Paris-Saclay, qui est un établissement composant de l'Université Paris-Saclay, avec trois autres écoles. On a le même statut, ce qui donne une certaine autonomie au sein de l'Université Paris-Saclay, mais... On est dans le collectif Université Paris-Saclay, et depuis la naissance de l'Université Paris-Saclay, l'idée même de l'Université Paris-Saclay, l'ENS Paris-Saclay, en la personne de Pierre-Paul Zalio, président de l'école à cette époque, a beaucoup contribué à l'émergence de l'université. Je suis arrivé en 2020, au moment de l'installation de l'école, période Covid, etc. Qu'est-ce qui peut séduire quand on fait le tour de l'ENS et qu'est-ce qui est sa singularité dans le paysage? On a fait la rentrée des étudiants il y a quelques jours, c'est le fait qu'on soit une full université. On a tout le spectre des sciences de l'ingénieur aux sciences humaines et sociales en passant par les sciences de la nature. Et ce qui est vraiment bien, c'est de voir tous les étudiants rassemblés dans un même amphi. Il y a cet esprit de promo, il y a 300 personnes qui couvrent tout le spectre disciplinaire de l'école. Je pense que c'est unique, pas en région parisienne, en France et probablement au-delà. Je suis arrivé à cette époque de transition Université Paris-Saclay et Covid. Et quelle était la feuille de route d'un VP recherche à cette époque? C'était relativement simple. C'est bon, Philippe, il va falloir passer par une acculturation des unités de recherche qui étaient à Cachan, qui étaient enfermées sur le site de Paris-Saclay, et en même temps contribuer à l'écosystème de Paris-Saclay. Et parmi les curiosités qui pouvaient faire mon intérêt en venant ici, parmi les facteurs déclenchants, il y avait cette chose qu'on appelait la boîte noire de Renzo Piano, qu'on appelle maintenant scène de recherche, qui est un lieu, un théâtre professionnel au cœur de l'école, au cœur de l'Université Paris-Saclay, de rang international, et une plateforme de recherche-création. J'avoue avoir découvert la terminologie recherche-création en faisant mes premiers pas dans l'école. Donc on a une triple mission sur cette scène de recherche, c'est recherche, ouverture vers le grand public et formation. Et puis c'est aussi un écosystème, je parlais de 300 étudiants de toutes disciplines réunis dans un même amphi. Sur cette scène de recherche, on a des gens qui sortent des sciences de l'ingénieur, des sciences dures, qui vont côtoyer des sciences humaines et sociales, des artistes, sur un même lieu, donc c'est un catalyseur. Donc ça c'était 2020. Ensuite il y a eu cette période qui était la période Covid, où on a beaucoup travaillé avec Marc Dondet, qui était le directeur de la scène de recherche de l'époque. On a eu des discussions, c'était une acculturation mutuelle, et il fallait expliquer à quelqu'un qui venait du milieu du théâtre ce que pourrait être le milieu académique pour lui. Et c'est à ce moment-là que Volnifage, j'y arrive enfin, arrive dans l'équation. Tu étais en congé de recherche pour conversion thématique à cette époque-là, et tu n'as pas eu le choix, tu as été embringué dans cette histoire, et je me souviens de longues discussions avec Marc, toi, pour élaborer ce qui était un livre blanc, que pourraient être les actions recherche-création à l'ENS, à l'Université Paris-Saclay à cette époque-là. On était en 2021, mais on avait... on butait sur une chose, c'était le financement de cet objet, que ce soit formation ou recherche. Et le facteur déclenchant, je ne saurais plus le dater, mais il y a peut-être des gens dans la salle qui se souviennent, c'est l'appel à projet Excellence sous toutes ses formes du pays à carte, France 2030. Je me souviens de Marc Dondet, directeur de l'époque, qui passe dans le couloir, mon bureau était ouvert, je crie, ça y est, on a trouvé quelque chose. On avait trouvé quelque chose parce que c'était Excellence sous toutes ses formes. Et on était incité sur chaque site à travailler sur notre signature. Chaque établissement devait mettre en exergue sa signature. On allait chercher l'argent sur ces signatures. Donc ici, c'est Campus Durable, c'est Ville Campagne Durable, et c'est aussi Art Science Création, et on a réussi. Et là, ça a été un passage à l'échelle. On n'était plus un objet ENS, on était un objet Université Paris-Saclay. Donc une grande transition. L'autre grande transition qui a suivi immédiatement, c'est ce qui fait la spécificité de l'ENS. On a une scolarité en 4 ans, à partir du L2 jusqu'au N2, et on a donc une année supplémentaire, qui est l'année spécifique de parcours, qui fait la signature de chaque normalienne ou normalien. Et on a des années de recherche thématique, on en a en intelligence artificielle, en quantique, et on en a créé une en recherche-création. Bravo Volney, là aussi ça a été, et on en est à la troisième promo, quatrième promo, excuse-moi, donc des gens qui ont commencé leur thèse après avoir fait une scolarité, et voilà, et il y en a dans la salle. Et je disais à Volney à l'instant que pendant la nuit blanche à Paris, il y avait une de vos étudiantes qui avait investi tout l'hôpital de la Salpêtrière, la chapelle de la Salpêtrière, pardon, et j'étais en vacances cet été, j'ouvre les pages culturelles de la ville de Hambourg et je vois aussi cette même personne à Hambourg. Donc vous avez vraiment des personnalités.
Des stars.
Des stars. Et puis, recherche, cette année de recherche, donc c'est un diplôme universitaire de l'Université Paris-Saclay, donc 14, 13 inscrits encore cette année. Et puis le gros facteur déclenchant après de passer à l'échelle Université Paris-Saclay, ça a été le PEPR. On savait qu'il y avait un PEPR ICC, Industrie culturelle et créatrice, qui se mettait en route, que c'était un PEPR stratégique d'accélération. On était ravis, mais on n'arrivait pas à cranter. Et un jour, eh bien, voilà, Marie Cornu m'a mis en contact avec Solveig et on démarrait des discussions. Et je pense qu'il y avait un intérêt mutuel, Solveig, pour la scène de recherche qui va maintenant porter ce tennis. Donc je suis absolument ravi qu'on accueille aujourd'hui le lancement de ce projet tennis du PEPR ICAR dans nos locaux. Donc il nous reste un certain nombre de chantiers qu'on pourra travailler avec dans le cadre de tennis et d'ICAR plus largement. Donc là, on passe à l'échelle nationale, ce qui nous intéresse, mais je pense que ça pourrait être l'occasion de nouer des liens à l'international. On aurait besoin de ça. La recherche création, ça pourrait être international et on pourrait y travailler. Et il y a un des dossiers sur lesquels travaille Ulysse, que je n'ai pas encore cité, qui est le directeur actuel de la scène de recherche. C'est nos relations avec le ministère de la Culture. Et là aussi, on a un travail qui est déjà bien avancé de discussion avec ses collègues. Je vous remercie et encore une fois, bienvenue à l'ENS.
Avec ravissement, toutes les activités qui sont faites ici à l'ENS, mais plus globalement dans l'établissement que j'aide à copiloter. L'Université Paris-Saclay, c'est à peu près 60, alors si on prend le grand périmètre, 65 000 étudiants, 10 000 chercheurs à la louche, 10 000 personnels de recherche, 220 laboratoires, donc il y a un foisonnement absolument incroyable. La richesse des étudiants, on va parler de l'ENS, mais plus globalement de l'Université Paris-Saclay et de ses composantes, ses établissements composantes. Il y a également une diversité thématique, tu l'as évoqué Philippe. Alors j'aime bien dire moi qu'à l'Université Paris-Saclay, on couvre tout du Big Bang au Big Band. Ça résume un petit peu tout, même si c'est très réducteur et c'est une punchline réductrice par construction. Et donc on est ravis d'avoir cet équipement mutualisé, mais plus qu'un équipement, une âme. Cet équipement a une âme grâce à vous, la scène de recherche, qui permet de rayonner, et c'est très important, tu l'as un peu évoqué, et grâce à la politique de Ulysse et de toute l'équipe, sur le territoire, c'est important, parce qu'un objet hors sol, c'est bien, mais ça ne dure pas longtemps. Un objet vraiment dans le territoire, avec les étudiants, évidemment, la recherche, c'est essentiel, et puis l'international, ça, il y a le temps d'y arriver. Donc on est ravis d'avoir cet équipement et toutes ces équipes, et tout ce qu'il y a autour. Moi aussi, j'ai découvert le concept de recherche-création assez récemment, et donc je suis ravi de soutenir ça. Il y a comme un quart du budget de la Diagonale qui aide à financer la scène de recherche, donc je le précise, et je suis ravi de soutenir ce bel équipement. Et effectivement, tout ce qu'on fait à l'Université Paris-Saclay sur ces thématiques-là, c'est la politique qu'on mène et que je mène, doit avoir un lien avec la recherche et ou la formation et ou le territoire. Et la scène de recherche coche absolument tout. Sinon, nos actions, aussi pertinentes, excellentes soient-elles en termes de culture, de médiation scientifique, de lien avec le territoire ne sont pas soutenables et ne seront pas soutenus s'il n'y a pas ce lien organique avec nos missions cœur. Alors, moi aussi, je suis ravi de participer à cette ouverture, à ce démarrage, surtout que toucher tous les publics, bah, ça concerne toutes nos institutions. Alors, pour parler que de l'ESR, parce qu'il y a d'autres opérateurs de l'État qui sont aussi intéressés à ça, mais pour parler de l'ESR, l'enseignement supérieur et la recherche, c'est aussi une politique que nous essayons de mener pour la médiation scientifique, pour la curiosité des plus jeunes dans tout le territoire. Alors surtout l'Essonne et les Yvelines pour ce qui nous concerne, mais évidemment on va jusqu'à l'international, les problématiques sont pas les mêmes. Et donc, alors je ne serai pas là cet après-midi, j'ai des visioconférences avec l'Agence spatiale européenne pour un peu de ma recherche personnelle, mais donc je ne pourrai pas assister à la présentation notamment de Marie-Christine et d'autres, mais j'espère que j'aurai un résumé et puis qu'il y aura plusieurs séances, parce que c'est sur, vous allez m'expliquer ça, sur 5 ans, voilà. J'y compte bien. Donc merci, bravo et belle ouverture, et puis on attend beaucoup de tous vos travaux. Voilà.
Culture au secrétariat général pour l'investissement, qui est à Matignon le service en charge de la mise en œuvre de tout le programme France 2030 et notamment de la partie culture. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin à l'ENS Paris-Saclay. Quelques mots pour resituer la culture dans le programme France 2030. France 2030, c'est un programme donc, qui cherche à accompagner les transformations de notre pays dans les prochaines années, qui est doté au total de 54 milliards d'euros, sur lequel 1 milliard d'euros est réservé spécifiquement aux enjeux de transformation de la culture et des industries culturelles et créatives. On a une exception volontairement très large des industries culturelles et créatives. On sait que quand on y met dedans des musées, des métiers d'art, on est un peu loin de la définition stricto sensu de l'industrie, mais on est aussi créatif dans nos définitions. C'est une démarche qui est issue du grand emprunt et des investissements d'avenir qui avait été précédée par un rapport bipartisan signé par Michel Rocard et Alain Juppé, deux anciens premiers ministres, qui disait qu'il convenait que l'État s'arrache à la tyrannie du court terme et que nous tous nous arrachons à la tyrannie du court terme. C'est un enseignement qu'on essaie d'appliquer dans tout ce plan qui est donc piloté à Matignon avec tout le gouvernement. À l'intérieur, pourquoi la culture? Évidemment parce qu'il y a des enjeux très personnels, très intimes sur l'importance de la culture. Il y a aussi des enjeux plus globaux, plus économiques sur son poids dans l'économie. C'est deux fois l'industrie automobile, c'est autant que l'industrie agroalimentaire. Il y a des enjeux sociaux très grands, représentation aussi des mouvements qui traversent la société. Et aussi, et peut-être surtout, des enjeux de rayonnement international. Je pense que notre secteur est le seul secteur de l'économie où on peut dire, pardon par avance pour cette référence un peu de boomer, à la manière d'une publicité pour les assurances dans les années 80, on est numéro un, oui ou non. Parce que la culture, en effet, c'est un des secteurs pour lesquels le prima ou le leadership international français est reconnu. Puis c'est peut-être aussi le seul secteur de la société qui a le pouvoir, selon la direction que l'on veut lui faire emprunter, ou de cimenter et de rassembler, ou de construire des murs qui séparent. Alors la stratégie nationale des industries culturelles créatives dans ce cadre, elle cherche à accompagner la transformation du secteur dans trois champs principaux, la transition écologique du secteur, la transition numérique, une meilleure inscription sur les territoires. On sait que c'est un sujet qui a été abordé plusieurs fois dans les travaux autour du PEPR, aussi une meilleure présence à l'international et une plus grande structuration dans le secteur qui est très éclaté. Et ce qui lie toute cette stratégie d'accélération des industries culturelles et créatives, c'est l'idée de l'innovation. Une innovation au sens large, pas simplement une innovation technologique, on intègre aussi toutes les définitions de l'innovation, donc les innovations de gouvernance, d'usage, de modèle économique. Et aussi, ce n'est pas l'innovation pour l'innovation, c'est l'innovation au service des objectifs affichés de longue date de la politique culturelle, depuis le décret du 24 juillet 59 sur la démocratisation culturelle, l'inclusion, l'élargissement du public. C'est vraiment ça qui est recherché. Alors le programme de recherche sur les ICC qui s'inscrit dans cette stratégie d'accélération, qui a été lancé il y a presque 3 mois d'ailleurs à Tourcoing, c'est aussi une volonté de manifester territorialement notre souci de nous adresser à tous, s'inscrit dans cette stratégie. Et l'idée, c'est pas qu'on finance une recherche, j'allais dire, habituel ou classique, c'est bien, et Greg a trouvé un acronyme que j'adore, la science avec et pour les ICC, donc si vous faites l'acronyme, ça fait SAPIC, on sent le pouvoir de l'ironie, et donc quelque chose qui soit dans le dialogue, dans l'échange avec les secteurs, avec les artistes, avec les institutions. On cherche dans notre programme décloisonner un peu les ICC entre elles, à montrer tout ce qui les rassemble, les défis communs qu'elles ont à relever. On invite les ICC à sortir un peu de l'entre-soi, mais dans le programme de recherche, c'est un peu la même chose, ce à quoi on invite. Sortir la recherche peut-être de son entre-soi ou de la tour d'ivoire dans laquelle elle peut parfois avoir tendance à s'enfermer et travailler sur les relations, le dialogue et les échanges. Avant de conclure, je voudrais vous raconter une petite histoire, une histoire en trois dates sur 30 ans, 94, 2009, 2024. 94, j'arrive à Paris, je suis étudiant en première année de Sciences Po. Je suis pas très connaisseur de l'art moderne et contemporain, mais curieux. Je me rends à Beaubourg pour la première fois et je me souviens très bien être sorti du bâtiment 5 minutes après y être entré avec un sentiment profond d'oppression et d'exclusion. D'ailleurs, quand j'y reparle, vous voyez ma voix s'émeut. Le sentiment, surtout que l'institution s'adressait aux insiders, aux initiés. Je me souviens encore de la signalétique, galerie 1, galerie 2, espace 315, une espèce d'élément très, 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 très cryptique, comme une gare qui donnerait l'indication de où sont les quais, mais qui ne dirait pas quels sont les trains et à quelle heure ils partent. Donc, quelque chose d'un peu ubuesque. Et je me souviens que ce souvenir, comme un public qui avait eu un peu le sentiment d'être repoussé, allait guider un certain nombre des engagements ensuite dans ma carrière professionnelle. 15 ans plus tard, on est en 2009, j'arrive au musée du Quai Branly comme directeur des publics. Et pour essayer de lancer une politique justement sur la démocratisation culturelle, l'élargissement des publics, l'inclusion des personnes en situation de handicap, l'accueil des familles, l'accueil des scolaires. On allait hors les murs à la rencontre d'un public qui ne venait pas spontanément au musée, à Clichy-sous-Bois, à Montfermeil, à Cergy. Et je me souviens d'un échange avec un conservateur en arrivant à qui j'expose les objectifs qui sont liés à ce poste. Le sentiment aussi du devoir qu'on a comme une institution largement financée par l'argent des Français de s'adresser à tous, y compris à ceux qui se disent « le musée, c'est pas pour moi ». Et je me souviens qu'il m'a dit « mais tu crois que c'est vraiment notre rôle ?» Et je lui dis « je le crois pas, je le sais ». Et après cet échange, la satisfaction aussi de voir les conservateurs du musée extrêmement engagés dans le projet, qui sont partis à la rencontre de ces publics dans ces différents endroits. À la fin, on devait dire non à certains, parce qu'on avait trop de volontaires d'ailleurs, et qui me disaient en revenant, merci, on retrouve le sens profond de notre mission de transmission. Lorsque l'institution sort de ses douves, sort de ses châteaux forts et de ses murailles pour aller à la rencontre du public, et quand elle sort d'elle-même, c'est des gens, donc c'est une incarnation beaucoup moins effrayante. Je saute encore 15 ans, on arrive en 2024, c'est les cérémonies des Jeux Olympiques, des Jeux Paralympiques. Je veux dire, j'ai été assez ému de la conception qu'ont eu Thierry Reboul, Thomas Joly, Victor Lemaine, notamment sur le signal musical ou la volonté d'inclusion par la musique qui était transmise. On avait Ravel et Debussy, et Joe Dassin et Johnny Hallyday, avec une idée d'inclusion de génération. Une idée de mélanger la musique dite savante et la musique dite populaire, une volonté de réunir, de rassembler, dans une playlist où chacun pouvait se retrouver. Non pas d'exclure et de surplomber, mais de partager la beauté et de donner de la joie. Au final, en fait, ne pas confondre qualité, beauté, émotion et snobisme. Je crois que c'est un peu au cœur de tous les travaux de ce secteur. Tout ceci pour dire que la démocratisation culturelle est un des combats professionnels de ma vie. Et donc, zéro pression, on va dire, mais moi, je suis très, très intéressé de tous les résultats qu'il pourra y avoir, de tous les travaux, de la manière dont ils seront conduits. Tous mes voeux, donc, pour des travaux très fructueux dans lesquels les institutions culturelles de 2030 pourront trouver non pas seulement matière à penser, mais j'espère à agir, et source d'inspiration, c'est un peu ça aussi, l'inspiration de travail, de dialogue. Au final, tout ça, c'est une affaire de justice, d'égal accès aux services publics parfois, et c'est sans doute aussi, au bout du compte, une affaire de concorde et de paix civile. et c'est-à-dire très exactement ce qui était Thémis. C'est là qu'on voit le brio de notre directrice de recherche, puisque Thémis était à la fois la déesse de la justice, donc de la justice fiscale et sociale, mais aussi celle qui apportait la bonne entente entre les dieux. Magnifique signal, Solveig. C'était l'occasion aussi de saluer Solveig et David, qui dirigent tout ce programme et le font avec un engagement, une énergie et une détermination qui font plaisir à voir. Je ne serai pas beaucoup plus long, je voudrais saluer aussi Ulysse et tous ceux qui nous accueillent aujourd'hui. Très bon travail à tous, et puis on attend bientôt, c'est qu'on a 5 ans, les résultats prometteurs. Merci.
Il y a un projet aussi sur les métavers, virtuellement, imaginons que nous soyons 150 à la scène de recherche. Alors, monsieur le conseiller culture au secrétariat général pour l'investissement, très cher Fabrice, monsieur le vice-président, si je ne me trompe pas, art, culture, recherche, société, c'est ça ?
Sciences-société.
De l'Université Paris-Saclay, cher Hervé. Monsieur le vice-président recherche de l'ENS Saclay, très cher Philippe, parce que c'est mon chouchou, je vais vous expliquer pourquoi. Cher Ulnis, cher Volny, chers étudiants, très chers collègues et amis qui êtes présents aujourd'hui. Alors je suis extrêmement heureuse d'être à vos côtés ce matin, dans ce lieu magnifique qui est la scène de recherche de l'École normale supérieure Paris-Saclay, à l'occasion du lancement du projet de recherche Thémis, qui a pour vocation de répondre à une question d'une grande complexité, comment toucher les publics. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Solveig Serre, je suis directrice de recherche au CNRS, historienne et musicologue, et je suis devant vous aujourd'hui un tout petit peu pour autre chose, en tant que directrice du programme Industrie culturelle et créative, dont le nom de code est PEPR-ICAR, dans lequel s'inscrit le projet Thémis, avec 5 autres compagnons de voyage, que sont les projets Harmonie, qui abordent les enjeux de la création, de la production et de la diffusion à l'heure des technologies immersives et de l'intelligence artificielle, Dédale, consacré aux alternatives culturelles et créatives et qui s'est lancé mercredi dernier, Eupraxie, qui enquête sur la culture et la créativité comme bien commun et comme vecteur de démocratie et qui sera lancé la semaine prochaine, Styx, qui s'interroge sur les aspects économiques et sociaux des métavers, et enfin Comet, qui a pour vocation d'encourager les avancées scientifiques et technologiques des univers métaversiques. Alors pour reprendre les mots de la sociologue Eva Illouz, la recherche c'est un peu comme une histoire d'amour, c'est à la fois le fruit du destin et du hasard. Et dans le cas de Thémis, tout a commencé un peu par hasard, avec une rencontre heureuse et fructueuse avec Philippe Maître, vice-président recherche de l'École normale supérieure de Saclay. Philippe me contacte à l'automne 2022, curieux d'en savoir davantage sur ce programme encore très mystérieux qui était en train de se lancer. Comme j'enseigne tous les jeudis à l'École Polytechnique, que c'est pas loin d'ici, je me dis bon, je vais passer voir, c'est pas loin. Et c'est comme ça qu'a commencé Thémis. Une deuxième rencontre avec Volny Fage, maître de conférence à l'ENS Saclay, puis une troisième avec Ulysse Baratin, directeur de la scène de recherche. Thémis, c'est enfin une rencontre avec un lieu particulier qui a compté aussi dans le fait de confier le projet à Ulysse et à Volny, la scène de recherche, bon, dans laquelle nous ne nous trouvons pas aujourd'hui, et qui ne peut mieux incarner la mission de science avec et pour les industries culturelles et créatives, la SAPIC, que l'État a confiée au CNRS à travers le programme ICAR. Donc Philippe, Volny, Ulysse, je tiens à vous dire à quel point j'ai apprécié ce temps long, minutieux, patient, de rencontres, de dialogues, puis de construction du projet, qui est venu très légèrement contrasté par la suite avec une contractualisation un peu à marche forcée à l'été 2023. Le lancement de Thémis représente l'aboutissement d'un long processus, à la fois scientifique et administratif, de presque 2 années, une véritable aventure collective co-construite par de nombreux acteurs scientifiques, professionnels et administratifs, que je remercie au passage. Un merci tout particulier à Yacine Belliot et Marion Brisa, respectivement chef de programme et gestionnaire administratif et financière d'ICAR, et à Sophia Lalil, responsable de l'administration et de la coordination de la scène de recherche, qui œuvre depuis des semaines pour que cette journée ait lieu dans les meilleures conditions possibles. Cela ne vous aura pas échappé. Tous les projets qui s'inscrivent au syndicat portent le nom d'un personnage mythologique. Avec un petit bonus pour Thémis, dans la mesure où le directeur de la scène de recherche se nomme Lys. Bon, plaisanterie mise à part, le nom de ce projet, inspiré, me fait pas rire Fabrice, inspiré par la déesse grecque de la justice et de l'équité, ne pouvait mieux incarner, je pense, l'engagement de Volny et d'Ulysse pour porter, chacun dans leur sphère d'expertise respective, une vision éclairée et juste de la culture pour tous. Et c'est Volny qui a choisi l'acronyme de son projet. Car Thémis est bien plus qu'un simple projet de recherche classique. C'est une quête ambitieuse qui sera menée conjointement avec les communautés de recherche et les communautés professionnelles pour explorer et comprendre les dynamiques complexes qui façonnent la relation entre les publics et la culture, ou peut-être plutôt les cultures. Cher Volny, cher Ulysse, il ne me reste plus qu'à souhaiter bon vent à ce projet qui ne se contente pas de nous rappeler l'importance de la justice dans cette quête, mais qui nous invite aussi à réfléchir aux manières dont il est possible de créer un espace où chaque citoyen est valorisé et où la culture est plus accessible, plus inclusive et plus juste. Le chemin que Thémis a devant soi est pavé de défis, mais aussi de possibilités immenses, et il nous tarde de le parcourir avec vous.
Bon, merci à la fois Volny Fage, bien entendu, et à Sophia Lalille, sans qui nous ne serions pas tout simplement dans cette salle. Peut-être pour commencer sur une note à la fois mythologique et... Voilà, Thémis, ça a été dit à de nombreuses reprises, est une déesse, en effet, une divinité de la justice, de la concorde, en effet. C'est aussi, et c'est peut-être un peu moins connu, une divinité implacable qui est aussi la mère des trois parcs et qui semble-t-il est l'inspiratrice de la guerre de Troie. Ce que je veux dire par là, c'est que dans ce projet qui donc s'intitule Toucher les publics, et donc toucher tous les publics, il y a évidemment cette question de justice qui a été évoquée, et là je vais parler comme praticien. Quand on travaille dans un théâtre ou dans un lieu de culture en général, et qu'on a à cœur, et j'ai été à la fois ému et intéressé par ce que vous avez dit, M. Gazadebé, c'est le cœur de la mission, mais on se rend compte aussi quotidiennement que cet horizon, de toucher tous les publics, dans une logique de service public de la culture, est un horizon qui est dur à atteindre, qui est extrêmement dur à atteindre, et que... De ce point de vue-là, c'est pas que l'horizon recule, mais on est en permanence en train de courir après, et la difficulté de la tâche n'est pas mince depuis 59, et même depuis Jeanne Laurent, au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et là, je vais vous raconter peut-être une petite anecdote qui explique cette note un peu sombre sur Thémis. C'était cet été à Avignon, le 7 juillet au soir, donc le second tour des élections législatives. Il y avait absolument toute la profession en spectacle vivant, et cette profession a senti le vent du boulet sur son visage, ce soir-là. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une dimension politique extrêmement forte dans ce projet de recherche, qui signifie aussi que moins on y arrive à toucher cet horizon, toucher les publics, plus on se sent responsable, nous, en tant que praticiens, que directeurs de salles, que directeurs des publics dans des salles, justement des frustrations que ça peut générer, et de la sensation aussi que l'argent public profite à certains, mais pas à tous. Et donc, notre responsabilité, je crois, n'est pas mince. Et si je voulais continuer à filer des images grecques, je dirais que ce BEPR a un certain sens du kairos. Parce que, en effet, aujourd'hui, étant donné ce qui se passe à la fois en France de manière générale et plus particulièrement au niveau des institutions culturelles, je crois qu'en effet, il faut absolument se poser cette question-là à nouveau frais. Elle est à la fois cruciale et urgente. La question, évidemment, c'est pourquoi le faire à la scène de recherche. Je crois, évidemment, tout a été dit ou presque sur la scène de recherche, sur ces trois missions, les résidences d'artistes, la formation, les croisements avec les scientifiques, aussi la diffusion de la culture et notamment de la culture scientifique, comme l'a dit Hervé. Et tout ça est au cœur, en effet, de la scène de recherche. On est en quelque sorte une porte d'entrée artistique et culturelle de l'Université Paris-Saclay sur son territoire. C'est le premier motif qui, à mon avis, fait qu'il y a une sorte d'osmose, en quelque sorte, entre les scientifiques et cette petite industrie culturelle, qui est la scène de recherche dans laquelle, ne t'inquiète pas Solveig, nous allons aller dans 20 minutes, à peine. La scène de recherche est complètement inscrite dans un écosystème scientifique, et c'est pour ça que ce PEPR, d'une certaine manière, est très scène de recherche, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on est sans doute un des rares théâtres, sinon le seul, à avoir un coordinateur académique, et donc un chercheur qui est en réalité intégré à la scène de recherche, et c'est évidemment Volny. Ce que je veux dire par là, c'est que la scène de recherche fonctionne tout le temps en interaction avec des chercheuses et des chercheurs, et notamment en sciences humaines et sociales, mais pas uniquement, parce que les artistes qu'on a vus ici ont pour mission en réalité de rencontrer des scientifiques, et il va en être des collaborations à Ré-Sciences, ce qui permet en effet de diffuser la culture scientifique, de faire de la médiation auprès des plus jeunes. Et ça fait, c'est évidemment au cœur de ce qu'on fait. Et donc, ce PEPR est quelque chose de presque naturel pour nous. Je sais que ce n'est pas une notion goûtée des sociologues, mais ça, en effet, fait partie de ce qu'on fait déjà. Une autre anecdote, pour vous dire à quel point, pour un lieu culturel comme nous, le rapport avec les scientifiques est important. Quand je suis arrivé ici il y a 2 ans, j'avais, comme tout bon directeur de salle, élaboré un projet artistique. C'est ce qu'on demande pour prendre la tête d'une institution, il faut faire un projet artistique qui est ensuite validé, puis on est recruté sur ce projet, sur tout un tas d'entretiens, M. Zallio aussi. Mais en tout cas, on arrive avec ce projet en se disant, voilà, maintenant on va le faire, on va l'appliquer. Et la première chose qui m'est arrivée quand je suis arrivé ici, c'est qu'on a mis sur mon bureau un rapport, une centaine de pages, d'un étudiant en sciences humaines et sociales, qui était à l'époque en master, c'était le jeune Tristan Ingrao, qui avait réalisé l'année précédente une étude sur la perception de la scène de recherche chez les publics de l'EMS. Et ça faisait une centaine de pages extrêmement denses, extrêmement importantes, qui ont complètement percuté mon projet. Et c'était la première fois en fait que j'arrivais avec ce projet artistique, mes dispositifs, l'ingénierie culturelle, la programmation, bon, la panoplie habituelle, on va dire, et tout d'un coup j'avais cette étude de public d'un jeune chercheur. C'était incroyablement précieux. Je savais que c'était utile avant d'arriver ici, mais c'est incroyablement précieux parce que ça permet évidemment d'opérer une dialectique entre des documents objectivés et l'analyse de territoire, l'analyse artistique qu'on fait au parallèle. Peut-être dire aussi quand même, et j'en arriverai à mon troisième point, que cette étude était à la fois passionnante et un peu démoralisante. Et là j'en arriverai à un point important qui à mon avis donne son sens en quelque sorte à ce PEPR, ce projet ciblé à la scène de recherche, c'est que la scène de recherche est composée en fait dans ses relations avec les publics de handicaps gigognes, qui était d'ailleurs déjà dit en fait de manière première, quoique encore un peu fraîche par cette première étude. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que, en quelque sorte, accueillir ce projet de recherche ici, c'est aussi une manière, évidemment, d'avoir la scène de recherche comme son propre objet d'étude, et dire aussi que ici, vous avez des publics qui sont extrêmement hétérogènes. C'est pour ça que c'est intéressant, je pense. C'est une des raisons. Vous avez des publics extrêmement hétérogènes, à commencer par des étudiants, qui sont la manifestation même de la rupture générationnelle que propose le numérique, qui va être un des points importants, à mon avis, de ce projet, pour un rapport faible au rituel artistique tel qu'il pouvait être instauré, qui a pu perdurer encore jusqu'aux années 80-90, à mon avis. C'est un public de scientifiques aussi. Et ça, c'est pas rien, c'est-à-dire que, pour reprendre une formule de Bourdieu, il manifeste assez bien, comment pourrais-je dire, c'est l'absence du sentiment de l'absence à l'art. C'est-à-dire que quand vous allez voir des chimistes et que vous lui dites vous allez pouvoir écouter de la musique expérimentale ou de la danse contemporaine, c'était jamais même posé la question que ça existait pour beaucoup d'entre eux. Et c'est ça que disait cette étude de public. C'est-à-dire que en réalité, personne n'attend de l'art ici, personne n'attend de la culture et personne n'attend du théâtre. Il faut le dire, en fait, c'est important. Et ça vaut à la fois pour les gens qui travaillent à l'Université Paris-Saclay, qui, en effet, c'est pas forcément nécessaire, et ça, pour travailler à la scène de recherche, nous l'entendons régulièrement, mais aussi pour les publics extérieurs. Les gens qui vivent là, de l'autre côté, ma foi, ne savent même pas que nous existons. Parce que fabriquer un théâtre, ça pose des questions innombrables, quand il est neuf comme celui-ci, il a 3 ans et demi d'existence, de signalétique, de communication, un ensemble de questions qui seront abordées là aussi, je le souhaite, dans ce projet ciblé, qui font que s'inscrire territorialement dans un endroit, c'est horriblement compliqué, surtout quand c'est une ville nouvelle. Et là, ça pose une question urbanistique qui est importante, je crois. On a pu s'en rendre compte ce matin, la scène de recherche est sur le plateau de Saclay, ce qui pose énormément de questions logistiques, avec, pour le dire très, très, très simplement, les personnes qui habitent ici et qui veulent aller dans une salle de spectacle ne viennent pas à la scène de recherche, ils viennent à Paris. Et là, on a un phénomène, il y a une loi, à mon avis, physique à élaborer, c'est-à-dire que les gens partent pour aller à Paris, mais les Parisiens ne viennent pas ici. Vous voyez, ça se fait dans un seul sens, mais pas dans l'autre. Et donc toucher les publics ici, c'est horriblement compliqué et horriblement intéressant aussi. On y arrive, bon an mal an, on a triplé le nombre de spectateurs la saison dernière. Mais il y a une importance de la géographie ici qu'on ressent tout le temps. Et de la géographie, dans ce cas-là, de plus primaire, de plus basique, il y a les gens qui habitent en haut, et ceux qui habitent en bas. Et ceux qui habitent en bas, dans les vallées, comme on dit ici, ne montent pas. Parce que les bus ne fonctionnent mal, parce que se garer est impossible, parce que, en fait, il y a énormément de raisons. Et donc, ne serait-ce que pour ce motif-là, il y a tout un travail à faire. Donc en fait, pour le dire de manière un peu triviale, la scène de recherche ne dispose pas de l'armée de réserve culturelle, celle qu'on trouve dans les métropoles, celle qui est composée de ce public français qui traditionnellement, selon les études sociologiques, va au théâtre ou dans des lieux de danse, qui est composée aussi de jeunes artistes, ou alors d'étudiants en art plastique, en art du théâtre, en art du spectacle, tout ce que vous voulez. Cette armée de réserve-là n'existe pas. Nous devons tout construire, en fait, sur un territoire qui, d'une certaine manière, s'y refuse. Alors, on a le monopole, parce qu'on est le seul lieu culturel sur le plateau de Saclay, c'est vrai, à part la maison Jujita, qui est très vue, que je vous invite à aller voir, mais on est quand même dans un territoire qui n'est pas simple, et qui est hétérogène socialement, parce que vous avez un public qui peut être très bourgeois, et un autre, aux Ulysses par exemple, qui ne l'est pas du tout. Et donc vous avez une mosaïque sociale extrêmement compliquée, qui est redoublée par la ville nouvelle, plus les villages qui sont juste à côté, les cités qui sont encore à gauche, et donc une sorte de territoire qui, d'une certaine manière, et c'est mon intuition, est une sorte de micro-France, avec des cœurs de ville, des villes nouvelles, des cités HLM déshéritées, et en même temps du périurbain et des villages qui sont quasiment ruraux, en fait. Et donc on est face à un ensemble de fractures et de ruptures qui concatènent l'ensemble des questionnements qu'on peut retrouver au niveau national. C'est pour ça que c'est intéressant. Enfin, je dirais que c'est simple, mais en tout cas ça offre une expérience in vivo, en quelque sorte, qui est tout à fait passionnante. Donc nous sommes dans un poste d'observation à la scène de recherche, et ce qu'on va proposer, c'est à la fois donc ces tables rondes, mais aussi des œuvres d'art qui manifestent, qui essayent de résoudre cette question, de voir comment on peut associer les publics, comment est-ce qu'on peut se poser à nouveau frais avec les scientifiques. Je souscris complètement à ce qui a été dit sur la nécessité d'ouvrir en effet les fenêtres du milieu culturel, c'est plus que nécessaire, de voir aussi ce qui s'y fait, et de le formaliser peut-être, c'est ce que disait Bernard Latarjé dans son dernier ouvrage, c'est-à-dire de dire... Aujourd'hui, il y a énormément d'initiatives dans le milieu culturel qui repensent la démocratisation culturelle et la démocratie culturelle. Mais la question, c'est d'arriver à former un corpus pour élaborer une stratégie. Et pour ça, en effet, les scientifiques sont évidemment nécessaires. Bon, pour terminer, cette approche décloisonnée qu'est TEMIS, à mon avis, peut aider à prendre des décisions. Et là, je vous parle vraiment comme praticien et des chercheurs. Vous n'imaginez pas la nécessité qu'ont les directeurs de salle, directrices de structure, à d'études objectivement pour pouvoir réfléchir. Je le dis, et je sais que je m'adresse majoritairement à des scientifiques, nous avons besoin de vous. Parce qu'on sent bien aujourd'hui que les défis que nous affrontons sont absolument incalculables. Et donc, de ce point de vue-là, il est temps, en effet, d'attraper par les cheveux. L'occasion, parce que c'est ça que fait le Kairos, consiste à saisir par les cheveux cette occasion et ce PEPR que je suis très honoré d'accueillir, moi qui ne suis pas chercheur, en offre une excellente manifestation. Je vous remercie.
Merci vraiment beaucoup à toutes et tous pour vos mots. Vraiment, je pense que ça nous place sous des augures extrêmement positives. Moi, ça me met un peu de pression, bien sûr, hein, mais je suis ravi d'être là. Et je vais avoir la lourde tâche de vous présenter le projet pour de vrai, parce qu'en fait, pour l'instant, on a beaucoup parlé, mais on est resté un petit peu à côté. Alors, d'abord, un grand merci à ceux qui ont bravé les difficultés de transport, qui empêchent encore certaines et certains d'être là parmi nous, mais qui nous rejoindront cet après-midi. Donc, bienvenue sur notre beau plateau, dans notre belle ENS. Alors aujourd'hui, c'est un jour important pour pour nous, pour moi, parce que c'est, comme l'a dit Solveig, c'est l'aboutissement de 2 années de travail, en fait. Avant même que l'on commence, c'est l'aboutissement de 2 années de travail. Et je suis particulièrement ému, ça peut peut-être se sentir un peu, et puis impatient que les idées, que les enthousiasmes qui ont été les nôtres depuis 2 ans se concrétisent enfin et qu'on puisse commencer à travailler. Alors j'ai prévu des remerciements sur une page entière, voilà. Je vais aller assez vite, parce que bon, j'en ai parlé à ma fille qui m'a dit « tes remerciements sont super », donc je vais quand même en parler un peu. Donc ce projet, alors qui est tout juste sur le point d'exister par l'action performative de mes paroles, là actuelle, n'aurait jamais pu advenir sans le soutien indéfectible de l'ENS Paris-Saclay, hein, donc Nathalie Carrasco, qu'on verra tout à l'heure pendant le festin, et Philippe Maître qui a dit quelques mots tout à l'heure. Bon, je les remercie pour leur enthousiasme. Merci à toute l'équipe administrative d'ICAR, Hyacinthe, Marion, pour votre efficacité et puis pour la bonne humeur que vous insufflez au quotidien. Vraiment un grand merci. Un grand merci à la scène de recherche, bien sûr, à son directeur, Ulysse, qui a accepté, alors je l'ai marqué un peu follement, de s'engager dans cette aventure du PEPR, et avec qui j'ai un immense plaisir à discuter et à réfléchir au quotidien. Un grand merci à l'équipe de la scène de recherche, hein, qui est si présente, si à l'écoute, qui est si rassurante pour les chercheurs inquiets que nous sommes, hein, moi le premier, Sophia, Gaël, Alice, Kenza et Grace. Et puis un grand merci, on ne l'a pas dit encore, à tous les collègues qui ont accepté de rejoindre le groupe projet du PEPR, enfin du projet ciblé Témis, dont certains sont présents, je pense à Marie-Christine, je pense à Marie, je pense à Mathé qui est derrière, derrière là. Merci d'être venu, merci d'être là pour nous accompagner et prendre part au projet. Alors, Témis, quels enjeux, pourquoi faire? Alors, c'est à moi qu'incombe la lourde tâche de vous présenter le projet, de vous plonger dans les méandres complexes des publics de la culture, de la politique culturelle, de la démocratisation culturelle. J'y engage avec conviction, hein, vous le voyez, mais aussi avec modestie, qui a quand même à le dire, d'autant que nous avons un aéropage de grands spécialistes de ces questions dans la salle, et donc je me positionne à ma place. Le projet ciblé Témis alors part d'un questionnement collectif. Ulysse, tu l'as déjà esquissé, je vais en redire un mot. Un questionnement collectif à partir d'un lieu culturel particulier, la scène de recherche. Questionnement sur la question des publics. C'est nos discussions concernaient les publics de la culture en général, les publics de la culture scientifique parfois, souvent, mais aussi, peut-être pas aussi clairement que ce que je vais le formuler, les publics de la démocratie, pour reprendre les termes de John Dewey. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une réflexion autour des publics comme pratique, comme concept, comme politique. Et donc, l'expérience de la création d'un lieu culturel comme la scène de recherche, hein, qu'on a déjà évoqué, dans une université, dans un territoire qui s'apparente à une ville nouvelle, hein, le plateau du Moulon, c'est vraiment... Là, vous voyez, vous êtes dans une maquette architecturale, là. Donc par la fenêtre, vous voyez la ville nouvelle, là. Et puis on est des petits bonhommes sur le truc, et on peut se poser un certain nombre de questions. Et ça a posé la question, qui est venue percuter l'enquête de Tristan Ingrao, hein, donc un étudiant à moi, sur notre mission. J'entends mission de service public, bien sûr. Hein. Quelle est notre mission? Quel est notre rôle par rapport à des publics que nous sachions divers et bien souvent peu intéressés par ce qu'on faisait? Alors que faire? Comment s'appuyer sur cette expérience à la scène de recherche pour participer à retravailler concrètement, en pratique, la notion de démocratisation culturelle? L'entrée était bien sûr celle de la démocratisation culturelle. Avec quels nouveaux enjeux? Alors, tout d'abord, parce que quand j'ai écrit le discours, j'ai emballé un petit peu, donc osons prendre un petit peu de recul par rapport à la situation actuelle en matière de politique culturelle. Alors, j'ai lu pas mal de trucs avant de préparer ça, et je concatène ça, en effet, je reprends ton terme. Donc, avec le développement de ce que certains ont qualifié une culture à domicile, on a dit ça à propos de la télévision, mais que dire des réseaux sociaux? Que dire de l'Internet 2.0? Donc, avec ce développement d'une culture à domicile, on constate une émancipation croissante des des citoyens à l'égard des prescriptions institutionnelles en matière de culture. Et la majorité des contacts avec la culture aujourd'hui se font dans la sphère privée, je veux dire en termes quantitatifs, pas forcément en termes qualitatifs, mais en termes quantitatifs. Avec l'éclatement de la catégorie de non-public, qui était tant, si à la mode à une époque, et son remplacement progressif, son remplacement progressif par une multitude de publics spécifiques, la notion de public spécifique, sur laquelle on va revenir cet après-midi, multitude qui occulte parfois des influences, la grande influence des structurations sociales dans les pratiques culturelles, avec le succès des analyses sociologiques, qui soulignent l'éclectisme culturel et notamment les dissonances culturelles chères à Bernard Lahire, qui mettent en avant l'importance de la diversité des conditions de socialisation dans les pratiques culturelles, avec les débats récents et agités autour des droits culturels, il y a tout cela fait qu'on peut, à mon avis, affirmer, sans risquer d'être trop provocateur, esquisser l'idée que l'on traverse une crise profonde de la politique culturelle, crise profonde de la démocratie culturelle, je dirais même une ringardisation de la politique culturelle, notamment dans le rôle que les institutions publiques y jouent ou veulent y jouer. Et ça, c'est un problème considérable. Le point de départ du projet, c'est, à mon sens, que nous vivons dans un moment politique où la culture, entendue comme ce qui fabrique le commun, c'est-à-dire une acception extrêmement large de la culture joue un rôle crucial dans nos équilibres démocratiques. C'est notre point de départ. C'est-à-dire que si on n'a pas ça, Thémis n'a pas de sens. Donc le projet Thémis, c'est d'une certaine manière le résultat de ce constat de crise de la politique culturelle et d'une urgence à agir. Ulysse lui a dit, là on est vraiment sur Aline. Il résulte et traduit une prise de conscience collective de cette urgence de travailler ensemble, chercheurs et acteurs de la culture, justement pour comprendre les déterminants profonds de cette crise de la politique culturelle. Et donc pour travailler à une politique culturelle qui dépasse vraiment ce qui est au cœur de la crise, à mon avis c'est une hypothèse, c'est-à-dire les clivages entre une verticalité trop élitaire, on l'a dit, et une horizontalité susceptible de nous laisser enfermés dans nos conformismes communautaires. C'est vraiment le cœur. Voilà, le cap est posé. Donc maintenant, je vous propose, d'esquisser quelques pistes de problématisation. C'est-à-dire quelles sont les questions qui vont nous traverser pendant ce projet. Alors, évidemment, la question première, c'est celle de la démocratisation culturelle. C'est une évidence. Mais comment aborder cette question abyssale de la démocratisation culturelle? Tout d'abord, c'est quel rôle, aujourd'hui, ont les différents acteurs culturels dans les transformations des politiques culturelles? Quel rôle des ICC? Quel rôle des associations? Quel rôle des lieux divers et variés? Quel rôle des citoyens, amateurs, praticiens, etc.? Quels sont les enjeux démocratiques qui se nichent dans cette répartition ou cette prise de contrôle respectif des différents acteurs culturels dans la politique culturelle? Quelle importance, quels moyens on donne aux dispositifs qui sont destinés à produire ce que j'appelle de l'émancipation par les politiques culturelles? L'émancipation, là, au sens de Jacques Rancière, c'est-à-dire une émancipation qui signifie, qui rend possible des trajectoires individuelles et collectives qui s'écartent des formes de déterminisme sociaux et culturel qui pèsent sur les populations. En gros, qu'est-ce qu'on fait pour faire que, comme ce que tu dis, des gens qui n'étaient pas déterminés, comme ce que Fabrice racontait du Quai Branly, des gens qui n'étaient pas déterminés à aller à certains endroits, ils puissent aller quand même. Bien. Quel est le rôle du numérique là-dedans? J'aime ça, je pense que je vais m'imprimer ça. La dématérialisation est-elle réellement une démocratisation? Ça, je pense que ça, c'est un enjeu de quantification important. Que fait cette dématérialisation? Que fait ce numérique? Oui, il rend possible plein de choses, mais
comment les sociologues doivent continuer à s'en saisir et s'en ressaisir, parce qu'il y a déjà plein de travaux qui ont été faits sur ça, bien sûr. Les questions territoriales de la démocratisation culturelle, par autre question, ne passent-elles pas parallèlement à l'accessibilité qui est permise par la dématérialisation, par des formes de ce que je qualifierais de rematérialisation, notamment de certaines pratiques culturelles, pas de tout, bien sûr. Je pense notamment à l'appétence croissante pour le spectacle vivant, je pense aux festivals qui ont vraiment un succès considérable, je pense aux pratiques amateurs, les ateliers de la scène de recherche, on se bat pour faire des ateliers de pratiques artistiques à la scène de recherche, mais je pense aussi aux politiques culturelles municipales qui se déploient en lien avec la politique de la ville. En fait, ça se passe concrètement dans Boulogne-sur-Mer. À Boulogne-sur-Mer, vous avez... ça je pourrais en parler pendant des heures. Quelle dialectique peut-on identifier? Et là, c'est au cœur de la réflexion entre démocratisation et démocratie culturelle. Quelle dialectique peut-on identifier entre le local, l'ancrage territorial, et le global, ou au moins le national, parce que c'est un projet national. Entre les enjeux territoriaux, on l'a vu au lancement de Dédale, hein, de l'accessibilité par exemple, des spécificités culturelles, on parlait de la Corse, hein, des inégalités sociales géographiquement situées, je pense aux Ulysses, on pense à la ruralité, etc. Donc quelle dialectique entre ces enjeux territoriaux et des enjeux de fabrication de communs à des échelles plus grandes, celles d'un pays par exemple. Qu'est-ce qui fait commun ça de la culture, hein. Donc on comprend bien qu'il y a un enjeu là entre la corsitude et la culture qui unit les communautés, qui dépasse les espèces, les lieux circonscrits de la proximité. J'ai trois questions, je vais aller plus vite sur les autres. Deuxième grande question, qui moi me tient particulièrement à cœur, et si Christian Bessier est dans la salle, il me soutiendra, c'est la question des médiations et des intermédiations. C'est-à-dire que c'est une autre entrée possible pour toucher les publics. Ce n'est pas juste une histoire de démocratisation, c'est quels sont les moyens d'intermédiation qui permettent d'aller chercher ces publics, d'aller les toucher, d'aller les intéresser, d'aller reformuler éventuellement des choses. Alors, cette question des médiations et des intermédiations, on peut l'avoir par plusieurs entrées aussi. Hein, donc une entrée, moi, qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'entrée des lieux. C'est-à-dire, il y a beaucoup de travaux. Émilie Pamard, qui viendra sûrement cet après-midi, a beaucoup travaillé, notamment sur la matière culturelle. Beaucoup de travaux ont montré l'importance d'observer et d'interroger les lieux culturels dans leur diversité, notamment autour de la manière dont ils proposent concrètement, par leur topographie même, hein, par leur organisation, des moyens pour toucher des publics en mobilisant des médiations variées. Il peut s'agir de lieux labellisés, culturels, conventionnés, mais aussi de tiers-lieux, de lieux intermédiaires, de friches culturelles, ou encore des médiathèques, des MJC, tout ça. L'entrée par le lieu, en fait, ça intéresse profondément les lieux, mais aussi les chercheurs, parce que ça propose une recherche qui tend, par cette entrée de la médiation, d'identifier des homologies ou des différences entre les types de médiation pour dépasser, pour fabriquer des formes d'universaux ou d'analyse transversale entre des lieux qui pourraient n'avoir de prime abord rien à voir entre eux. L'autre entrée, et là je vais beaucoup plus vite, c'est l'entrée par les acteurs de la médiation ou par les actions de médiation, bien évidemment, on se pose la question, mais quel est le rôle de l'EAC par exemple? Qu'est-ce qu'on fait de l'EAC en matière de toucher des publics? Est-ce que vraiment ça a une action? Comment est-ce qu'on mesure ça? Quels sont les... On mesure quantitativement, qualitativement, quels sont les... Est-ce que l'EAC est émancipatrice? Moi, ça c'est une problématique très, très, très importante. Moi, ça me réveille la nuit de se poser ça. Okay. Quel est le rôle des associations comme médiation, notamment des associations de quartier, des associations qui ne sont pas des associations culturelles, dans la médiation culturelle? Quel est le rôle, par exemple, d'un travailleur social dans un quartier défavorisé, ou quartier politique de la ville, comme on dit, en termes d'ouverture culturelle? Quels sont les relais, les intermédiations qu'on peut mobiliser avec ce type d'acteurs? Quels sont les outils de la médiation numérique, etc. Comment est-ce que... Voilà, vous voyez l'idée. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, parce qu'après, on approfondira ça dans la table ronde cet après-midi. Bon, je n'ai pas dit, mais évidemment, l'idée, c'est aussi de mieux connaître les publics. Hein. C'est une évidence de dire ça, mais troisième pilier, c'est mieux connaître les publics pour les IDC. dans une économie culturelle qui est à la fois très locale et hyper mondialisée. Donc on a des projets, des perspectives d'analyse quantitative qui sont abyssales. Je continue beaucoup plus rapidement, mais je ne pouvais pas prendre la parole sans dire un mot un peu plus détaillé du SAPIC. De pourquoi cette forme de recherche est intéressante, utile, nécessaire à l'interface entre les mondes de la recherche et le monde des ICC. Alors, l'idée, c'est quand même que travailler un rapprochement entre la recherche via le CNRS et l'ANR et des différents acteurs de la culture, c'est un enrichissement. Bien. Alors, je me suis posé la question, mais pourquoi travailler ensemble, en fait ? Eh bien, l'idée, c'est qu'on est quand même à un moment historique où les rapports entre les ICC et la recherche sont, disons, souvent distants et parfois un peu tendus. Il faut quand même le reconnaître. Et donc, l'idée, c'est que l'on puisse travailler à des formes de rapprochement et de fécondation réciproque. Et à l'SDR, comme tu l'as dit, Luis, peut-être plus qu'ailleurs, on est particulièrement bien placé pour savoir à quel point ce rapprochement est fécond et heuristique. Alors, travailler ensemble, ça c'est permettre d'abord une meilleure connaissance des publics. Pourquoi ? Parce que pour les ICC, c'est avoir des données fiables. Pour les chercheurs, c'est avoir un accès facilité à des terrains qui étaient, sans cela, assez difficiles d'accès. Travailler ensemble, c'est aussi avoir des exemples paradigmatiques qui s'appuient sur des expérimentations susceptibles d'être partagées et donc d'alimenter les analyses des chercheurs d'un côté et servir d'inspiration ou de contre-exemple pour les ICC, que ce soit en termes de programmation, de tarification, de médiation, de recours au numérique, bref, tout ça. Mais enfin et surtout, travailler ensemble, c'est construire une confiance et des intérêts mutuels, notamment par une meilleure connaissance réciproque. Et ça, je pense que le chemin est encore long. Mais Thémis est là. Et donc, la mise en œuvre du projet, en deux mots, Thémis, ça durera 5 ans, et on a le temps un petit peu de construire les choses. C'est 2 bourses de doctorat, 4 années de post-doctorat, qui donneront lieu à des appels à candidature. Ça permettra de financer des petits projets, donc 3 par an, d'un montant de 5000 euros pour chaque projet, qui pourront financer aussi bien des projets de recherche qui s'intéressent au public ou des expérimentations dans des ICC qui cherchent à toucher et comprendre les publics. C'est l'organisation de 5 journées d'accélération qui sont des journées d'études thématiques, des sortes de journées d'études thématiques, 2 à la scène de recherche, 3 ailleurs en France, qui donneront également lieu à des appels à communication qui sont financés évidemment par le projet. Voilà, vous savez tout, c'est l'heure, on m'a dit qu'il faut que je dépêche. J'espère que ça vous aura donné envie d'embarquer dans le projet, de travailler tous ensemble autour de ces questions qui restent très complexes, hein, il faut quand même le souligner, mais absolument cruciales, celle des publics, celle de la démocratie, celle de la démocratisation, et surtout, comme son nom l'indique, et je vais terminer avec ça, hein, de vrai à plus de justice sociale et culturelle avec Thémis. Voilà, merci.